Vous écoutez RTL.
11h et bientôt 4 minutes sur RTL. Je vous laisse avec Stéphane Bern et toute l'équipe de La Bonne Heure.
Absolument. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et on retrouve Alexandre de Saint-Aignan à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure de La Bonne Heure avec Clémentine Célarier. Ça, je vous l'ai promis. Bonjour, chère Clémentine.
Bonjour, Stéphane. Bonjour, tout le monde.
Vous êtes avocate dans la série Leibovitz contre Leibovitz. Mais lui, c'est notre enquêteur numéro 1, Cyprien Sini.
Bonjour à tous. On va parler de quelqu'un qui aurait besoin d'un bon avocat.
Qui donc ?
Votre ami Kim.
Ah oui. Oh, Kim. Oh,
Kim Jong-un.
Oh,
il se défend tout seul. Et il a une sœur absolument ravissante.
Ah bah on va en parler aussi.
Elle est sympa.
Toute la famille.
Ça. Non, mais franchement, vous savez, vous le méjugez. Alors, Régis Maillot nous racontera la vie du barreau.
Bonjour. La vie du barreau.
Oui, les avocats. Oui. Les avocats.
Bah, je crois que c'est vous que je vais mettre derrière les barreaux. C'est la vie de Berne. Je vais raconter votre soirée télé de vendredi soir.
Ah d'accord. Parce que j'ai fait. J'essaie de me souvenir.
Eh ben, vous allez voir tout à l'heure.
D'accord. J'apprends ma vie grâce à Régis. Il y aura évidemment le zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour, bonjour à tous. Pas mal de musique.
Mais
naturellement,
oui.
Les victoires de la musique. Les victoires de la musique vendredi soir. Et puis on écoutera les meilleurs moments de ce très bel hommage à Claude François diffusé samedi soir sur Paris Première. Car à chaque documentaire sur Claude François, un hommage vibrant lui est rendu et on découvre un homme d'une richesse incroyable.
Très bien. Et puis, ça sera juste après le journal de midi. Et nous terminerons l'émission avec le quiz musical de Patrice Carmont.
Bonjour. Avec un beau cadeau.
Alors, le cadeau. Ah. Oui, mais c'est quoi le thème de votre quiz?
Ah, c'est facile. Clémentine jouant le rôle d'un avocat, ça sera les fruits et légumes.
Qu'est-ce qu'elle est bonne.
C'est du carmouze.
Alors, le cadeau, vous avez raison, Patrice. Le cadeau est exceptionnel. Une semaine de ski pour 4 personnes à Orcières-Merlette 1850.
C'est joli, c'est
ah oui.
Bien, ça.
Et au club Bellambra le Roc Blanc. Mais non seulement on vous y invite, mais en plus, on vous loue les skis et les remontées mécaniques.
Et on skie à votre place.
Non, je dis ça parce que c'est très cher.
C'est très cher. Location de ski.
Location de ski et puis les remontées mécaniques.
Les remontées mécaniques, c'est très cher. Et à pied, c'est plus long.
C'est un chouette cadeau.
Un
on ne pourra pas tricher pendant le quiz.
Non. Sérieux. Je vous dis même pas la valeur du cadeau parce que c'est monstrueux. Enfin bon.
Allez, dites-le, vous en aurez envie.
Et puis ça se fait pas, surtout.
Combien avec près de
ça se fait pas.
Moi, je l'ai vu et c'est beaucoup.
Ah, quand même
C'est énorme. Bon, je vous présente notre invité. Donc, appelez au 3210 si vous voulez jouer avec nous, participer ou par SMS 74-900 avec le code bonheur. Il y a assurément une correspondance entre le métier de comédien et de comédienne et les avocats, comme entre le prétoire et la salle de spectacle. Ne parle-t-on pas d'ailleurs des ténors du barreau, comme cette voix de ténor, vous savez, Éric Dupond-Moretti, qui aujourd'hui va essayer de sauver la cagnotte de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac.
Ah oui, c'est vrai.
Qui a quand même réussi l'exploit de cacher de l'argent à l'étranger, pendant que lui poursuivait de sa vindique les évadés fiscaux. C'est une sorte de personnage de comédie de Molière. Effet de manche, force de conviction, concours d'éloquence, l'avocate fait sa propre mise en scène pour défendre ses clients et leur épargner les rigueurs de la justice. C'est pour elle un rôle en or dans une série qui lui va comme un gant. D'autant que pour ce qui est de l'éloquence, elle est contrainte cette fois de terminer ses phrases. Après le succès populaire de la première saison de Leibovitz contre Leibovitz, qui a réuni il y a 2 ans pas moins de 4 millions de téléspectateurs sur France 2, la saison 2 s'annonce mercredi pour 8 épisodes inédits, toujours portés par ce duo formidable qu'elle forme avec Caroline Anglade, qui innove tant sur le fond que dans le ton. On y traite d'affaires judiciaires sérieuses et parfois douloureuses, même avec des enfants, mais sur un mode juridico-comique vraiment original et suffisamment attractif pour convaincre son héroïne de rempiler dans un rôle récurrent. Avec nous ce matin, Clémentine Célarier.
Merci Stéphane.
C'est juste, je dis ça parce
vous
que c'est...
Vous parlez bien.
Mais non, mais...
Oh mon Dieu, vous terminez toutes vos phrases. Oui. Il y a une belle syntaxe.
Il y a des belles phrases. J'essaye. Non, mais c'est le seul, moment. Non, c'est mon seul moment dans l'émission. Il y a quelques années, vous déclariez que vous refuseriez un rôle dans une série parce que vous aimiez garder votre liberté.
Change d'avis, c'est ça les gonzesses.
Quelle horreur. Non, mais je... Moi, la thèse que j'ai, c'est que Leibovitz contre Leibovitz est suffisamment forte, à la fois en fantaisie, en originalité, pour vous donner cette liberté.
Oui, c'est pour ça, quand Clémentine Dabadi et Thomas Viguier, les producteurs, sont venus me graisser la patte, non, c'est pas vrai, je veux dire n'importe quoi, parce qu'il est tôt pour moi, enfin, ou tard, je veux dire, ça dépend de quel point de vue on se pose. Oui. Donc, ils sont venus me proposer cette série que j'ai... Et je leur ai dit, ben voilà, il faut que ce soit si, enfin il faut que ce soit excessif, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit des émotions. Il faut pas que ce soit lisse, quoi. Il faut que ce soit quelque chose de qui fasse rêver et en même temps qui soit, je sais pas, que ce soit que les situations soient oui puissantes un peu, voilà. Donc ça, pendant un an, on s'est vus et tout ça avec les auteurs et Nathalie Suard et Laurent Burtin qui sont super. Et si vous voulez, au fil du temps. Eh ben, on s'est connus mieux. J'ai vu qu'ils me donnaient des libertés, enfin qu'ils acceptaient. Mais c'est pas que de ressembler à ce que je suis, c'est de ressembler à l'avocate que j'aimerais représenter. Vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui est quand même très humain aujourd'hui dans un rôle. Si on peut pas défendre des choses, si ça correspond pas à un petit sens, vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça m'intéresse pas. Donc elle, c'est vrai que tout d'un coup, elle était victime de quelque chose. Elle est victime de cette jeune femme, Caroline Anglade, Irène, sa rivale, qui lui pique son mec, qui lui fait un enfant, machin. Et ben c'est bien parce que ça fait un personnage qui en prend plein la gueule et c'est intéressant parce que face à ça,
elle se bat tout le temps.
Et ça, c'est chouette.
Puis il y a votre tempérament. Il faut aller avec votre tempérament.
Parce que je pouvais mettre ça, c'est vrai, dedans. Mais surtout qu'il y ait des choses un peu des situations un peu extrêmes, vous voyez.
Ah ben ça commence
pas en bonne, comme on dit, politiquement correct, tout ça.
Donc
c'est vrai que les affaires sont il y a beaucoup de trucs humains. Il y a des thèmes.
On va en parler. On va entrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, je vous ai préparé une interview justice.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Clémentine Célarier pour Les Bobistes contre les Bobistes. Mais j'ai oublié de vous dire une chose essentielle dans l'émission.
Quand même.
C'est l'énorme cadeau que nous allons vous faire. Ah, c'est pas seulement Sir Merlette. C'est Slimane qui nous fera le cadeau en venant chanter en direct dans le studio de la Bonne Heure et qui sort son nouvel album qui est magnifique, Solune. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, mon interview justice. Clémentine, parce que c'est vrai que vous portez la robe d'avocate. Est-ce que l'injustice est une chose que vous ne supportez pas?
Oui, mais maman m'a appris que sa grand-mère lui avait dit c'est la vie est une injustice, enfin le monde est... Oui, mais enfin, c'est pas une raison. De toute façon, on est tous des petits mondes. Je vais faire un peu de philosophie, je me sens et tout ça. Donc, on a le droit de rêver, parce que si on rêve pas, d'abord, on est mort, parce que c'est la vie est
déjà un cauchemar.
Une sorte de rêve. De rêves comme ça à assouvir, voilà, pluriel. Et donc, moi je pense que. Enfin, l'injustice, ça me rend folle. C'est normal, je veux dire. Et vous?
Ah ben moi, tous, je pense qu'on est révoltés par la justice.
Ben oui, alors qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a énormément. Mais
il y a de quoi se révolter tous les jours, c'est ça.
Oui, mais je me dis qu'alors du coup, on peut faire notre petite part.
Faut choisir.
Oui. Vous voyez, c'est-à-dire notre petit truc, nous, par exemple, un sourire, c'est rien, ou un geste.
Coup de gueule par jour.
Ouais, coup de gueule, moi en fait, j'ai du mal parce que c'est. Ou alors, c'est vraiment, faut vraiment qu'on chauffe. Mais vous voyez, sur un thème, je sais pas, vous me faites parler de. Non, je rigole. Mais l'injustice, il y a beaucoup d'injustices, déjà même à la télévision. Enfin, il y a des trucs qu'on voit qu'on devrait pas voir. Il y a des choses qu'on voit dans la rue qu'on devrait pas voir. Enfin, mais après, s'il y en a une foule. Mais c'est pour ça qu'être avocate, c'est un truc bien. Et ça, je vous jure que quand vous avez un personnage comme ça, ça fait du bien d'avoir le pouvoir de dire
de
non.
Dire choses,
et toi, tu vas là, toi. Ça, c'est merveilleux. Et je regrette quelquefois de ne pas avoir fait d'études.
Ça veut dire aussi défendre parfois avocat. Des gens qui. Dont on sait qui sont coupables.
Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça, je ne sais pas comment ils font.
Ça, c'est dur.
Ça, c'est dur. Mais alors, ça, c'est un autre thème. Parce que salaud, est-ce que quand on est salaud, c'est quoi? Et est-ce qu'on peut repentir? J'ai eu la chance de rencontrer il y a longtemps dans un documentaire une femme qui s'appelle Susan Atkins, qui est une femme qui a quand même participé au meurtre, vous savez, Charles Manson, tout ça. Enfin, je ne l'ai pas rencontrée, elle, mais j'ai rencontré son mari.
La personne qui avait.
Son mari. Ouais. J'ai rencontré son mari qui l'a. Et elle s'était complètement repentie pendant mes 40 ans. Donc, si vous voulez, c'était devenu quelqu'un d'autre en prison. Donc, après, il y a tout ça sur la justice réparative, vous voyez, parce que ça, c'est très intéressant, ça. Mais bon,
là, c'est pas
quoi,
le genre d'affaires dans les Bovis contre
non,
les Bovis.
Il y a des histoires
un peu violentes.
Oui, et puis il y a aussi le pardon, tout ça. Enfin, à partir de quand on peut. Bon,
en tout cas, on vous
connaît, c'est un grand thème.
C'était fait pour vous, ce thème, en tout cas.
Ça va, vous avez fini la phrase, on est très contents. On va retrouver Clémentine Sédarier.
et on va parler de la série Lebovitz contre Lebovitz. Et je vous assure, ça vaut le coup de regarder à partir de mercredi.
Merci, Stéphane.
Voilà, 8 épisodes. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Clémentine Célarié pour, alors, deux actualités. On parlera tout à l'heure de votre livre, votre dernier roman, On cherche midi à la folie. Mais surtout parce que vous êtes, on va vous voir à partir de mercredi dans Lebovitz contre Lebovitz. Je le disais, vous incarnez une avocate, Paul, qui a créé son cabinet avec son mari Simon. Ils ont travaillé ensemble malgré leur divorce. Mais Paul apprend que son ex-mari s'est remarié en cachette avec la petite jeune avocate qui était stagiaire, là, qui a intégré le cabinet.
Il a choisi un vieux trop blond.
Et que elle l'avait engagé, et ben ils lui ont fait un enfant dans le dos. Et voilà. Lui, en plus, il a fait une crise cardiaque. Enfin bon, bref. Et il faut cohabiter avec la nouvelle Madame Lebovitz. Donc elles sont deux. Voilà, Lebovitz contre Lebovitz, c'est Paul contre Irène. Ça, c'était le pitch de la première saison.
Bon.
D'ailleurs, j'en profite, vous êtes plutôt du genre possessive, vous entendez bien avec les
ex. Je ne me prononcerai pas sur la question.
Sur la question.
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Il n'y a pas d'avocat ici.
Non, ça n'a pas d'intérêt. Non, ça n'a pas d'intérêt. De moi, je dis n'importe quoi. De toute façon, on va faire rire les gens. Vous dire, vous voyez.
Non, mais non plus. Puis vérité, un jour.
Horriblement possessive, bien sûr. Enfin, et vous.
Oui, aussi.
J'aime bien direz-vous comme ça. C'est un peu plus de Stéphane. Oui, j'aime bien.
Dans la saison 2, qui débute le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux.
Oui. Et du massacre aussi.
Merci pour ce petit rappel.
Merci, bonne chose.
Massacre des amoureux.
Non, le massacre de la Saint-Valentin.
Ah pardon.
Ce n'est pas Al Capone.
D'accord.
On aura toujours une info plus qui donne la pêche.
Il y a un nouvel homme entre les deux femmes. Cet homme est un bébé. Le bébé que vient d'avoir Irène, Caroline Anglade, et là encore, votre personnage, Paul, elle va devoir prendre sur elle. Parce que non seulement elle doit sauver le cabinet qui est au bord de la faillite, mais en plus, elle va devoir s'occuper du bébé de sa rivale.
Oui, mais ça, elle aime bien le faire.
Oui.
Alors que la jeune maman...
Oui, elle
est très paniquée. Et c'était dur pour Caroline de jouer ça, parce que d'abord, elle a un bébé qu'elle a eu en même temps, enfin, c'était dingue, quand on a terminé la première saison, elle était enceinte, en fait, alors qu'elle accouchait dans le...
Elle accouchait dans la prison, dans l'épisode.
Et en fait, elle était vraiment, elle, enceinte. C'était drôle. Oui. Donc, elle a un bébé, donc ça a été très dur pour elle, je sais, parce que c'est une amie très chère, Caroline, que j'adore. On est très proches, et c'est pour parce qu'on s'aime, d'ailleurs, qu'on peut se détester à l'écran. Parce que sinon... Non, mais c'est vrai, parce que il faut qu'on ait une complicité, voilà. Et d'ailleurs, toute la troupe, je voudrais les saluer, Michel Jonas, Cécile Reboa, Nicolas Grand Homme, parce que c'est vraiment des... On est vraiment dans une classe.
Oui.
Quand on se retrouve pour tourner, on est là, comment ça va, qu'est-ce que t'as fait pendant... Enfin, vous voyez, les vacances, on n'a pas de vacances. Hein,
non,
quand on est... Mais on se raconte nos trucs, nos histoires, et tout ça. Et donc, donc ce bébé, elle a du mal. C'est une mère qui a du mal, qui est très maladroite, qui a du mal à aimer son enfant. C'est très intéressant parce que ça arrive. Et du coup, Paul, elle l'aime, cet enfant. C'est
comme si elle en était la mère aussi. Très intéressant, à commencer dans le premier épisode qu'on va voir mercredi, c'est qu'on tire un fil et en fait il y a toutes les problématiques autour du rapport autour des enfants.
Oui.
Et c'est très ancré dans la réalité de ce qu'on peut lire dans les journaux, notamment les violences par exemple, les enfants secoués, etc.
Oui.
Donc en fait il y a une prise directe avec ce qu'on vit dans la réalité.
Il y a le bébé Simon avec lequel donc Irène a du mal à vivre. Enfin, elle a du mal à être une bonne maman, comme on dit. Et puis il y a des affaires judiciaires avec des enfants secoués, des enfants un peu maltraités et tout ça. Mais ça, c'est bien parce que les auteurs et les producteurs, ils font des choses qui sont fortes et qui sont toujours liées à des thèmes pas forcément qu'on aborde facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est intéressant parce que du coup, ça révèle, comme vous dites, des attitudes, une humanité ou une non-humanité. Enfin, voilà, c'est toujours un peu borderline et c'est vachement intéressant.
Et puis, alors, c'est vrai, vous dites, alors Caroline Anglade est formidable parce que.
Oui.
Mais Michel Jonas aussi.
Michel, il fait un hypocrite. L'autre jour, on a fait une émission. Il disait c'est moi, le personnage. Quand même,
il a un humour aussi ravageur.
Il fait un espèce de petit sournois un peu le mec un peu escroc et tout ça. Et c'est très drôle de faire ce genre de personnage. Et puis, c'est Cédric Boa, Nicolas Grandhomme sont géniaux.
Ils sont géniaux.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Clémentine Célarié. C'est toujours un rayon de soleil dans cette émission quand elle vient. Non, mais c'est vrai. Soleil, c'est vrai. Non, c'est vous.
C'est,
vous
juste c'est le roi soleil, crème. C'est beau.
Non. Et alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de retrouver, comme je vous l'ai promis d'ailleurs, Cyprien Cini.
À la une, le web de Cyprien Cini.
Ben, vous parliez de soleil, on va y rester. Parlons un peu de ce pays qui vous plaît tant. La main sur le cœur. Bienvenue au pays des grands leaders. La Corée du Nord, c'est
l'une. Vous avez. Non, pas j'y chante juste.
Oui, ouais, c'est bien. Hein. Ils ont intérêt, sinon ils meurent. Hein. La Corée du Nord, le pays de Kim Jong-un, le commandant en chef, père du peuple, soleil de l'avenir communiste, guide des rayons du soleil et grand homme descendu du ciel.
Ouais, guide des rayons du soleil, ouais. C'est bien.
C'est son titre officiel. Ouais,
c'est pas mal, guide des rayons du soleil.
On regarde d'autres, mais j'ai réduit parce que sinon, on est pour la minute. On pourrait aussi l'appeler.
Que Kiki.
Kiki.
Comme Kiki.
Tellement bien joué de la part de Kiki. Bravo Kiki.
Kiki. Mais Kiki, ça lui plaît pas, ça lui plaît moins, donc on va lui appeler Kim tout court. Kim tout court qui a donc envoyé des athlètes chez le voisin du Sud pour les JO. Signe qu'à défaut d'avoir changé de coupe de cheveux, il s'est quand même bien assoupli. Hein. Kiki, Kim, qui a réuni le Nord et le Sud, ils ont fait équipe commune en hockey féminin. Le Nord et le Sud unis pour affronter la Suisse. Résultat.
L'équipe unifiée de Corée n'a pas fait le poids face à la Suisse.
Elles ont été battues 8-0 par les Suisses.
Eh oui, une défaite 8-0. Et alors à la télé nord-coréenne, ils ont parlé du match, mais bizarrement, ils ont oublié de donner le score. C'est bête quand même. En revanche, ils ont beaucoup parlé de la performance de l'armée des beautés. Oui, l'armée des beautés, c'est comme ça que Kim tout court appelle les pom-pom girls que le Nord a envoyées pour mettre l'ambiance. Et alors c'est vrai qu'elles ont mis de l'ambiance. Alors je vous arrête tout de suite, Patrice, elles ne sont pas en mini-jupe, les jambes à l'air, avec des pompons à l'américaine, non.
Bien.
Les pom-pom girls. Girl de Kim, elle chante comme les choristes de Gérard Jugnot. C'était l'ambiance pendant le match de hockey, ça. Ça ressemble un peu à Jean-Baptiste Monnier avant qu'il mue. Et elles sont en anorak rouge et bonnet. Mais bon, malgré tout ça, on note quand même un assouplissement véritable hein, dans le régime de Kim, car déjà, les 22 athlètes qu'il a envoyés au jeu logent au village olympique avec les autres délégations. Et ça, c'est déjà un plus, parce qu'au départ, il était envisagé de les parquer sur des bateaux en pleine mer, genre Alcatraz, pour éviter qu'ils ne s'échappent. Non, mais c'est véridique. Hein. Puis en plus, la terreur de Kim, en fait, avec les événements sportifs, c'est de voir ses athlètes en profiter pour se faire la malle et fuir le régime. C'est par exemple arrivé pendant la Coupe du Monde de foot en 2010 en Afrique du Sud. Après le premier match, 4 joueurs ont déserté. Et pour jouer le deuxième match, bah, ils ont remplacé ni vu ni connu par des policiers nord-coréens qui accompagnaient la délégation. Un subterfuge qui au départ est passé inaperçu car personne ne connaissait les vrais joueurs en fait. Et bah, les 4 ont bien fait de ne pas rentrer car l'équipe de foot qui est rentrée en Corée du Nord avec 3 défaites en 3 matchs a eu droit à une séance d'humiliation publique de plus de 6 heures. L'entraîneur lui a disparu. Apparemment, il a été emmené en camp de travail. On n'a plus de nouvelles. Au JO de Londres, 2 ans plus tard, les familles des déserteurs sont elles aussi retrouvées en camp de travail, autant vous dire.
Ah oui, ils désertent chaque fois.
Ah bah chaque fois, il y en a qui arrivent à partir. Bah oui, c'est bon, évidemment.
Oui, pour les familles, c'est pas bon. Ouais.
Voilà, le problème, c'est qu'après, ils prennent les familles et les mettent dans des camps. Ouais. Donc du coup, on a presque envie de les laisser gagner, les 22 athlètes nord-coréens de ces Jeux de Pyeongchang. Kim, qui est représentée par sa sœur en Corée du Sud, une jeune fille a l'air charmant, hein, comme vous disiez tout à l'heure. On a même vu esquisser cette jeune fille des mouvements d'épaule lors de la cérémonie d'ouverture, au moment où ils ont diffusé ça.
Open Gangnam Style.
Le sud-coréen, le tube sud-coréen Gangnam Style. Donc elle a bougé à ce moment-là. On s'est dit que c'était un bon début. Faudrait juste maintenant qu'elle succombe complètement au charme de la vie normale et qu'elle décide elle aussi de ne pas rentrer. Car ça, Kim, c'est certain, il s'en remettra pas.
Et bien merci Cyprien de nous donner les nouvelles.
Il y a un cinéaste coréen qui a fait J'ai rencontré le diable, qui est absolument génial.
Oui.
On adore à la maison le cinéma coréen.
Voilà. Je vous juste dire. Très bien. Oui.
Mais nous, on aime encore plus le cinéma nord-coréen.
C'est plus rare.
C'est plus rare. C'est vrai, c'est incroyable. Il faut du cinéma incroyable.
C'est de la bombe.
Eh bien, merci Cyprien. On va retrouver dans un instant le vrai faux de l'invité.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern. Le vrai faux de l'invité.
Alors, le vrai faux de l'invité. On a plein d'infos sur Clémentine Célarié. Voilà. C'est le moment de les vérifier. Alors, d'abord, eux vont dire c'est vrai, c'est faux. Ils vont se battre un peu. Puis ensuite, vous arbitrez, évidemment. Clémentine voyage gratuitement sur Air France. Wow. Comme les. Oui.
Je crois qu'elle aimerait bien. Elle le découvre à l'instant.
C'est chouette.
C'est vrai qu'elle joue pas du tout le jeu. Je pense que c'est faux.
Elle joue pas du tout.
Parce que c'est son arrière-grand-père, Louis-Charles Breguet, un avionneur très célèbre, qui est cofondateur. Cofondateur de la compagnie.
Touche pas au grand-père. Ça, c'est vrai, mais le début était naturellement faux.
Oui.
Ah, bah oui.
Mais ça devrait y avoir.
devriez avoir un droit.
Bah ouais, non, de toute façon, je ne veux pas de passe-droit. Droit. Non, parce que non. Et je suis une citoyenne, un bon petit soldat.
C'est bien.
Mais non. Et puis voilà. Mais par contre, oui, mon arrière-grand-père, Louis Breguet, ça, je suis fier. Mais bon, je ne l'ai pas dit tout de suite quand j'étais plus jeune. Parce que
non, parce que ça.
Ça ne se fait pas. On ne va pas profiter de ses ancêtres pour faire. Vous voyez, bah, faire
grande dynastie, les Breguet.
Oh, très grande. Non, mais c'est vrai.
Non, c'est
vrai.
Monstres,
c'est vrai. Puis j'ai des ancêtres incroyables, des gens qui ont connu des artistes, des peintres, enfin une ancêtre de maman qui s'appelait Camille Omiara, qui était élève de Chopin. Voilà, ça fait rêver aussi entre autres. Enfin, il y a des. Non, c'est chouette. Enfin, voilà.
Montre plus avion, mais alors ce que vous pourriez faire comme économie.
Ah oui, mais je regarde jamais le temps qu'il fait. Enfin, je veux dire le temps qu'il fait.
Le temps qui passe. Une montre pour attendre un avion Air France, c'est pratique.
Oh oui, elle est bonne.
Alors, on parle évidemment beaucoup du mouvement Balance ton poids. D'une certaine façon, Clémentine a été un peu précurseur, puisque ça lui est arrivé, c'était à l'école, elle a balancé comme ça, enfin, renvoyé sur les roses un type qui était un peu lourd avec elle. Et qui c'est qui s'est fait renvoyer de l'école? C'est pas le mec, c'est elle.
Ah, bah comme c'est quoi, l'époque a changé. Tant mieux. Vrai?
C'est vrai.
Il faut que je dise oui, c'est vrai.
C'est scandaleux.
Mais bon, moi, je suis pas trop. Je trouve qu'en ce moment, on en fait beaucoup, là.
Oui.
Voilà. Mais à un moment donné, il faut. Voilà. Oui. Je sais pas. Les hommes n'osent plus nous parler. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, d'ailleurs.
Ça s'est croisé au café tout à l'heure en s'ignorant. Non,
mais... J'ai même posé l'embrasse. Mon Dieu.
Non, mais vous aviez expliqué une technique pour faire fuir les hommes un peu lourds. C'était
non,
de mettre à hurler dans la rue.
Il y a longtemps, puis il faut un peu d'humour. Vous voyez, ça manque un peu d'humour. Tout ça, un peu. Bon, bref. Mais oui, non, c'est un truc très bien pour éviter qu'on se fasse harceler. Vous reniflez une poubelle. Dans
voilà,
la rue,
c'est ça.
Ah oui. Vous plongez dans la poubelle, carrément, la tête la première. Alors là, je vous jure que le mec vous laisse, ou vous crachez un peu, et là, vous toussez, ou vous mettez les pieds en dedans. Vous savez, quand vous avez des talons, enfin, pas, vous n'avez pas de talons, mais vous voyez, vous mettez, non, vous marchez un peu comme une débile, un peu comme une
espèce de. Il faut faire tout ça, quand
vous toussez, tout ça, puis vous. Et puis là, il vous emmerde plus, quoi.
Mais plus personne ne vous parle, c'est ça le problème.
Ben oui, mais c'est vraiment.
Choisir.
Voilà.
J'ai une autre information qui va vous bouleverser.
Oui.
Clémentine était à deux doigts d'entrer dans les ordres pour devenir bonne sœur.
Mais ça, c'est vrai.
Ça, c'est vraiment à deux doigts.
Non, c'est faux.
Oh non.
Pardon. Oh non, j'ai pas. Oh, ça, c'est sale. C'est vous qui avez le mal en vous.
De quoi vous parlez?
Non, bah oui. Il n'y a que nous qui avons compris et lui qui l'a pensé.
On parle de la foi, là. Enfin, de la foi.
La foi que vous avez fait.
Dans les humains. Oui. Non, mais. Oui, j'ai voulu comprends. Vraiment être bonne sœur, vraiment. Ouais. Mais si vous voulez, je crois toujours.
À quel âge,
hein, mais bon, il faut s'accrocher.
À quel âge?
À 14 ans.
Ah oui, d'accord. Mmh. Oui,
et j'ai vraiment. Non, mais je croyais. C'est simplement le truc du bon, du bien. Moi, je crois au bien. De toute façon, Stéphane, vous êtes un peu comme moi. Hein, parce que ça se voit, vous transpirez le. Non, mais si.
Il transpire,
il a chaud. Il a aussi.
C'est son col roulé, ça.
Il a aussi voulu devenir bonne sœur.
Je m'accroche à ça parce que je pense que. Moi, pour moi, la vie, c'est d'essayer de faire du bon, enfin, le plus possible. Alors, évidemment, c'est pas à la mode. Mais moi, la mode, je m'en fous, si vous voulez. Parce que. Je sais pas, il y a un truc humain ou d'être. Bon, enfin, je sais pas. De faire du mieux qu'on peut et d'être dans le plus honnête être possible.
Et aider les autres aussi.
Oui.
Bah, voilà, démarche. L'amour, c'est quand même un truc sympa. Enfin,
c'est sympa.
Bon, bref. Mais c'est pas. Ça fait pas gagner forcément d'argent.
Non.
Mais on s'en fout, voilà.
Alors, le vrai prénom de Clémentine, c'est Myriam, et elle a changé de prénom. C'était quand elle était à Radio 7. On lui a conseillé de changer de prénom. Et pourquoi Clémentine? C'est parce que ce jour-là, elle était habillée en orange.
Non. Non.
Non, c'est faux. Elle a changé de prénom, effectivement, à Radio 7. Mais c'est pas
heureusement
ça.
Que c'est faux, t'imagines l'horreur. Oh, vous êtes en orange, à Clémentine.
En vert, concombre.
C'est vrai que vous avez changé de prénom à ce moment-là, en revanche.
Oui, ben, il m'a demandé parce que Patrice Meyer, qui m'a engagé, tout ça, qui me riait tout le temps, il m'a dit tu ris tout le temps, Clémentine. Myriam, bon, écoutez, voilà, moi je m'en foutais. De toute façon, il aurait pu m'appeler, ça aurait pu être pire. Et puis,
c'est joli, Clémentine.
Oui, c'est mignon. Mais c'est bizarre quand même d'avoir deux prénoms.
Oui, il faut s'y faire.
Oui, puis voilà, c'est comme deux vies un peu. C'est...
Ouais. Oui, mais
bon,
ça permet d'être double.
Les alors, prénoms, oui.
Sur vos papiers, par exemple, il y a écrit Clémentine ou...
Myriam, ça dépend. Pour la carte,
marrant,
des trucs à la SNCF, c'est voilà. Ouais. C'est, les deux.
Pour la France, c'est marqué Breguet.
Parfois, on lui dit non, vous ressemblez à Clémentine.
J'ai plusieurs prénoms. Myriam, Germaine, Antoinette, Henriette, Anna.
Ah oui.
Oh, et Toc.
Ça, c'est les.
Eh bien, je vous propose, maintenant, je vous l'ai promis, cette surprise.
Enfin, c'est plus vraiment une surprise parce que je l'avais annoncé.
Qui sont ces deux musiciens?
Eh bien, c'est le grand Slimane qui est là.
C'est génial,
un talent incroyable.
et il vient nous interpréter extrait de son deuxième album, Solune.
Et ça s'appelle Viens, on s'aime.
C'est le tube du moment. Numéro 1 des ventes, Stéphane.
Viens, on s'aime. Vrai. Ouais. On regarde pas, nous, on compte pas.
Bah, ça, c'est mais, le coup de Scarmouze.
Ça, non, même, on compte pas.
Trop ancien.
Il est en direct, il chante en direct dans le studio. Mais c'est super, oui. Viens, on s'aime.
Slimane, bravo.
De nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leurs mots. Bienséance, viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Oh, 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 oh. Dire que notre histoire n'est pas belle, prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Oh, oh. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens, on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit. Encore une nuit.
Bravo! Slimane, viens, on s'aime, extrait de Solune. Alors, il s'installe avec nous, on va le retrouver dans un instant. On va lui poser des questions avec Clémentine Célarié pour la suite de La Bonne Heure en direct et en public sur RTL.
Vous écoutez RTL.
À La Bonne Heure, Stéphane Bern.
Et c'est Clémentine Célarié, l'avocate de Lebovitz contre Lebovitz, qui est notre invitée. Vous avez entendu Slimane chanter, viens on s'aime.
Enchantée, vraiment honorée de te rencontrer.
Ouais, c'est
je trouve ça magnifique, cette chanson. Ouais. Et en plus, tu as envie de dire, bah, écoutez, voilà, faites ça. Aimons-nous, serait bien. Mais en fait, bon, c'est un truc vachement dur apparemment à faire, ce qui se passe. Mais
ah oui, pour aller contre les préjugés, contre la bienséance.
Et quelle voix, pourquoi on lui met un micro, ça sert à rien.
Mais oui, il a une voix. Alors, c'est vrai, je me suis renseigné, heureusement que Patrice a toujours des informations très précises. 30 000 albums déjà vendus en 2 semaines. semaines de ce Lune. C'est énorme. Bon, le premier album À bout de rêve était sorti juste après votre victoire dans The Voice, avec double disque de platine. Alors, c'est vrai que la pression est très forte, j'imagine. Pour un deuxième album, Slimane, on s'est dit, bon, il faut faire aussi bien.
Ouais, on a toujours peur de quoi. Moi, j'écris mes chansons, du coup, j'ai toujours peur de comment vont être reçues mes histoires. Mmh. Et voilà, on a toujours l'appréhension. J'essaie de me dire de faire mieux. J'ai juste essayé de peut-être d'être encore plus sincère sur ce deuxième album parce que j'avais un peu plus de recul sur tout ce qui se passait. Mmh. Mais ouais, je suis très heureux et très soulagé de tout ce qui se passe depuis qu'il est sorti. Donc c'est cool.
Ouais, l'accueil est formidable. Ouais, très bon accueil. Il faut dire qu'on trouve beaucoup de thèmes dans cet album. Il y a le doute, la colère, mais aussi l'espoir et l'amour. Vous le dites d'ailleurs, j'ai chanté les rires, les pleurs et les joies. Elle me manquait, cette chanson d'amour.
Mmh. Ouais, pour être celle-ci, par exemple, je l'ai écrite au début du travail sur l'album et j'arrivais pas à écrire de chansons d'amour et je me disais, ben en fait, voilà, c'est un thème, ça, de pas trouver de chansons d'amour, c'est une histoire. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Mais ouais, c'est vrai que dans cet album, j'ai essayé de vraiment parler de choses qui me touchaient. Il y a une chanson qui parle de l'immigration, il y a une autre qui parle d'une femme battue. Alors, c'est des sujets qui paraissent comme ça assez graves et dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais c'est important de les faire aussi en chanson, d'essayer de toucher un public différent aussi de ceux qui peut-être parfois écoutent justement RTL ou des choses comme ça, et de parler de ces choses-là différemment avec peut-être d'autres
avec
mots.
Vos mots, c'était surtout, important, bien sûr. Ouais, voilà. Vous touchez aussi, vous avez votre public et donc c'est important aussi qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de choses. Et il y a une très belle reprise des Vieux Amants de Brel. Et puis Quand je serai grand. Mmh. Qui est une quand c'est je serai grand, je te défendrai, vrai. Maman. Mmh. Justement, c'est cette chanson sur. Mais elle a été écrite, et c'est intéressant, par le couple qui va représenter la France à l'Eurovision.
Madame, Monsieur, merci.
Tout le monde sait, je suis un peu focalisé sur l'Eurovision.
Non, il faut être derrière eux, là.
Ils viendront d'ailleurs,
ils vont venir dans la semaine, la semaine prochaine.
Merci. C'est pas urgent, c'est au mois de mai.
Oui, mais on s'y prépare.
Et puis on a des chances pour le coup là.
Exactement.
Avec cette chanson.
Comment vous faites? Parce que vous écrivez d'habitude.
Ouais,
pourquoi vous allez chercher alors d'autres?
En fait, j'ai pas cherché, pour être très franc. Moi, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de chansons sur l'album. Il y a 15 ou 16 titres inédits. C'est que moi, j'avais fait mon album. Quoi. En vrai, j'ai fait toutes mes chansons. Et parfois, il y a des rencontres. Voilà, j'ai rencontré Émilie et Humphrey qui a composé le titre. Et ils m'ont proposé cette chanson. Et je me suis dit, ben, tu peux pas avoir passé un an à t'être intéressé à tout ce qui se passait autour de la femme, à la place de la femme, à tout ça. Et quand on vient de proposer une chanson comme ça, elle a refusé. Je trouvais que c'était un devoir. Pour le coup, c'est même pas mon histoire, c'est pas l'histoire de ma maman, mais c'est important de chanter aussi des histoires qu'on n'a pas vécues pour tous ceux qui le vivent. Et voilà, je trouvais cette chanson incroyable, super bien écrite. Je suis fan de Madame Monsieur depuis longtemps, pour le coup, et je suis très content, voilà, d'avoir une de leurs chansons.
Bah, super. Mais en tout cas, vous êtes à partir du mois de mars en tournée dans toute la France et en Belgique. Le 16 mars, j'ai des dates. Hein, le 16 mars à Lille, le 7 avril au Zénith de Paris. Mais il y a également Roanne, Châlons-en-Champagne, Biarritz, Troyes, et puis, je le dis pour mes amis luxembourgeois, vous êtes à Esch-sur-Alzette le 28 mars au Rocal, qui est une très très belle salle. Vous allez voir. Le public va être très favorable.
Surtout, vous ferez la première partie.
Je ferai la première partie, donc, c'est l'habitude de présenter.
Puis on peut retrouver le studio. Vous avez fait le grand studio samedi.
Le grand studio samedi d'Éric Jean-Jean. Donc vous pourrez écouter sur RTL.fr. Et j'ai oublié de citer Benjamin qui vous accompagnait.
Merci Benjamin.
Et il a droit aussi à son moment de gloire. Alors on va retrouver dans un instant non seulement Clémentine Célarier, vous pouvez rester, et puis surtout Régis Maillot.
Elle peut rester ?
Pardon ? Elle peut rester, oui. Vous pouvez rester avec Régis Maillot.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Clémentine Célarier, mais c'est l'heure de retrouver Régis Maillot, non ?
VDB, la vie de Bern.
Régis Maillot.
Vendredi soir, France 2 diffusait les Victoires de la musique, le concert privé des maisons qui vendent plus de disques. Une émission de télévision que Stéphane Bern n'aurait manqué pour rien au monde. Dépêchez-vous, patron, ça commence dans deux minutes. J'arrive, Maillot, mets ton peignoir. Alors, checklist. Dom Pérignon, œuf de caille, truffe, macaron, jambon bellota, caviar d'Iran. Eh bien, je crois qu'on a tout pour se faire un bon plateau télé. Ah si, il me manque une dernière chose essentielle. Maillot, apporte la bœuf.
Mais comment? Mais
qu'est-ce que c'est?
Oh, mais qu'est-ce qu'il dit, Carmouze? Bah, il dit qu'il a déjà tout fumé devant la cérémonie d'ouverture des JO. Oh, mais enfin, comment tu veux qu'on regarde les victoires de la musique sans se droguer? C'est comme un dîner de famille sans alcool. C'est insupportable. Arrêtez de chialer, patron. J'ai une solution, mais c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les pilules de Joël Goron. Elle les prend pour écrire ses chroniques. Oh, mais ça, quel effet! Oh, c'est comme un sérum de vérité. Tu deviens sans filtre et tu balances des horreurs sur tout le monde. Ah, mais c'est ça qu'il me faut. Allez. Molo, patron, là, c'est costaud, là. Elle en prend qu'une demi par chronique, hein, pas la boîte entière. Allez, c'est parti pour la musique. Monte le son, maillot. Ah. Voilà. Dis-moi, qui présente cette année? Bah, Daphné Burki. Ah, bah dis donc, certainement pour la remercier de ses excellentes audiences de l'après-midi. En tout cas, c'est un joli cadeau d'adieu qu'ils lui font.
Oh, bah, mais non.
Bah, pourquoi vous dites ça? Bah, l'année dernière, ils ont mis Thomas Touroud, un mois après, ils l'ont viré. Ah. Alors, c'est quoi, là, ces cheveux? Bah, c'est un peu kitsch, quoi. Oh, mais dis-moi, Maillot, dis-moi, c'est toi qui lui as écrit ces textes? Bah, non, pourquoi? Parce que c'est aussi gênant que tes chroniques. Oh, bah, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la catégorie album musique du monde de l'année. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a Amadou Mariam, Toumani Sidiki Diabaté ou Moussa Ngaré. Ouais, si bien compris, hein, si tu viens pas du Mali, t'as pas le droit de figurer dans la catégorie musique du monde. Hein. C'est du racisme ordinaire. Mais non, c'est du hasard. Mais le hasard, c'est toujours dans le même sens. Quand je pense qu'il existe de très bonnes marches militaires autrichiennes qui feraient le bonheur des téléspectateurs du service public, mais bon, c'est la mode, il n'y en a que pour l'Afrique, 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 l'Afrique. Voilà. Tu vois, Maillot, plus j'écoute Camille, plus je me dis que ma robinetterie a du talent. Dis-moi, Maillot, c'est qui ce garçon bizarre en collant moulant avec une mise en pli de vieille dame? Où ça, là? Bah, à côté du panda de Brigitte Macron. Bah, enfin, c'est votre chouchou, c'est Julien Doré. Oh, je l'adore, lui. C'est un chanteur pratique. Moi qui retiens jamais les paroles, lui, il y a des rimes qui changent.
Voilà. C'est horrible.
Oh là là, mais quelqu'un lui dise d'articuler! On comprend pas les paroles. Bah, c'est Juliette Armanet, là. Oh oui, je sais, c'est l'habillage sonore de France Inter. C'est la catégorie des chanteurs laxatifs. Tu vois, sur RTL, pour la petite commission, on a la pub. Sur Inter, Juliette Armanet. Et pour la grosse commission, nous aussi, on a la pub. Non, on a le zapping d'Éric Dussard. C'est quoi ce truc, là? Bah, c'est Petit Biscuit. Je te demande pas ce que tu veux manger, je te demande le nom de ce garçon. Bah, c'est Petit Biscuit, c'est son nom de scène. Mais depuis quand on choisit son nom de scène en ouvrant les placards de la cuisine? Et maintenant, Panzani et les frères Barilla vont vous interpréter le dernier tube de Prince de Lu. Ah, oh, je suis tellement contente que Charlotte Gainsbourg ait remporté la victoire. Bah, pourquoi? Ça nous permet d'avoir des nouvelles de sa maman. Mais pourquoi vous pleurez? Parce que les Brigitte, elles ont perdu. J'aime pas quand Brigitte, elle perd. Ah, ça je connais. C'est la catégorie des artistes qui font la grève du shampoing. Bon allez, Maillot, il est temps de rentrer. La fête est finie. Comme dit Aurel San. Sur le sol que dans les vers, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là. La fête est finie, Maillot. Allez, rends-moi mon peignoir.
Merci beaucoup, Régis.
Bon, c'était bien la cérémonie des victoires, non?
Ben oui, on peut la croquer.
Oui, ben
c'est
oui.
Toujours un peu longué, voilà, comme
oui,
d'habitude.
Ben c'est ça. Vous regardez, vous?
Non, non pardon.
Vous regardez pas la télé, télévision. Non, je
non,
sais.
Mais, c'est pas,
mais
c'est
vous en aurez une vision assez nette tout à l'heure, grâce à
Eric Dussard.
Avec tout ce que vous aimez. On va parler des victoires aussi encore.
Eh oui, avec deux habitués. Oui.
Très bien. On va se retrouver dans un instant pour la suite de la bonne heure avec Clémentine Célarier pour Les Bobbits contre les Bobbits, mercredi à 21h sur France 2.
Bonus, découvrez la nouvelle émission de RTL, confidentielle avec Jean-Alphonse Richard.
Bonjour. On se retrouve et c'est un plaisir dans ce nouveau numéro de Confidentiel sur RTL. Une heure au cours de laquelle on va sinuer ensemble dans les méandres d'une vie, une trajectoire qui, comme toutes les trajectoires, n'est jamais une ligne droite. À l'image de celle que je vous propose aujourd'hui, la gloire et le malheur, la lumière et l'ombre d'un homme gigantesque, un monstre, comme il se surnomme lui-même, l'acteur aux 200 films, aux 1000 rôles et aux 1000 vies, dans les pas d'un géant et de ses secrets, Confidentiel Gérard Depardieu, c'est tout de suite, et c'est sur RTL.
RTL. Confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu est né dans une maison où il n'a jamais vraiment habité, dont il s'est toujours enfui, mais qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, il lui arrive de rêver au numéro 39 de la rue du Maréchal Joffre, quartier de Lomelon à Châteauroux, où une petite porte en fer s'ouvre toujours sur un maigre jardinet, une façade grise et des souvenirs perdus. Gérard Depardieu a vu le jour ici le 27 décembre 1948. Et ses premiers pas, dans deux petites pièces étroites et sombres, ont décidé de sa destinée tout entière. Jamais une enfance aura à ce point dicté les gestes, les mots et les désirs d'un homme. La jeunesse de l'acteur, il le dit lui-même à qui veut l'entendre, fut formidable. Troisième enfant d'une famille qui en compte six, des pauvres de l'après-guerre, jamais un sou à la maison. Pas de misère noire, mais une existence de briques et de broc. René, le père, surnommé le Dédé, taulier formeur, pêcheur à la ligne et promeneur des bords de l'Indre. Un puits de silence et de timidité, une ombre muette qui a appris à ne jamais se faire remarquer, à se fondre dans le décor et à se réfugier dans l'alcool. Please, Mr.
Bartender, listen here. Alors, votre père était taulier, non pas gardien de la prison.
Et non pas communiste non plus, il vendait l'humanité. Mais il était compagnon du Tour de France. Et le bien décidé, c'est son nom de compagnon. Il s'appelait Berry, car il était Berrichon. Le bien décidé, c'est lui qui avait choisi ce nom. Et c'est le bien décidé, c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire.
Alice, la mère, surnommée la Lilette, un visage d'ange triste, si lasse des grossesses à répétition qu'elle essaiera d'avorter de Gérard en s'infligeant des coups d'aiguille à tricoter. « Et dire que j'ai failli te tuer », lui répétera-t-elle mille fois. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut pour me toucher le crâne, pour savoir s'il ne reste pas quelques cicatrices, raconte Depardieu. Des cicatrices de cette enfance qui ressemblent à des pages de Zola, Gérard Depardieu en garde plein. Mais pas celles que l'on croit, pas celles des coups qu'il n'a jamais reçus. Je n'ai jamais été ni jugé par mes parents, ni tenu, ni rien du tout. J'avais été aimé pour être libre, j'ai toujours été libre. La discipline, notion inconnue chez les Depardieu, maison sans ordre, sans rituel, sans clé, sans horloge, sans verrou. La porte d'entrée donne directement sur l'aventure. Gérard ne fuguera jamais. Il ne fera que s'évader pour connaître le monde extérieur, fasciné par ces avions qu'il voit décoller d'Orly quand il rend visite ici à sa grand-mère, Dame Pipi, à l'aéroport. « J'ai toujours voyagé depuis les chiottes d'Orly. Je voyais toutes les villes du monde défiler. Saïgon, Addis Abeba, Buenos Aires. Je me disais, un jour, j'irai là-bas, j'irai. » À 10 ans, il en paraît déjà 15. Il découche et personne ne lui dit rien. Commence à traîner dans les rues de Châteauroux. À 13 ans, il en fait 17. 1,75 m pour 70 kg. Il quitte l'école que, de toute façon, ses parents ne peuvent pas payer. Gérard a un blouson rouge, une gueule de petite frappe qui effraie les honnêtes gens et se débrouille. Des petits boulots, des petits larcins, des petites bagarres pour s'en sortir. Il a tout du voyou et malgré son jeune âge, il lui arrive de faire peur aux gendarmes. Il voyage sans billets, sans bagages, en se cachant dans des trains ou dans le car des supporters de la Berrichonne, l'équipe de foot de la ville, qui va jouer à Monaco. C'est la première fois qu'il voit la mer. C'était tellement beau, pendant des mois ça m'a porté, se souvient-il. L'été suivant, il sera embauché comme plagiste au Cap d'Antibes. Personne ne s'interrogera vraiment sur l'âge exact de cet adolescent qui est déjà un homme. L'enfance de l'acteur n'est qu'une suite ininterrompue d'allées et venues. d'évasion, d'escapade, un tournis sans barrière, sans limite. Mais cette totale liberté n'est qu'une illusion. Gérard peut certes aller partout, mais en réalité, il ne va nulle part. Gérard voit plein de monde, mais en définitive ne rencontre personne. C'est la première fracture de l'acteur, cette conscience aiguë d'être marginal et condamné à le rester. Qui pourrait s'intéresser à ce voyou sans foi ni loi, sans scrupule ni morale, qui ne peut que finir en prison? L'éclaircie vient de la base aérienne américaine installée à la Martinerie. Plus de 10 000 hommes dans ce camp de l'OTAN. Les jeeps, les cigarettes blondes, les chewing-gums, le bowling, le rock'n'roll. C'est un air d'Amérique que respire soudain Gérard Depardieu. Avec sa carrure, son sourire désarmant, sa blondeur, il ressemble à tous les GI de la base. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais semble déjà s'exprimer comme un petit gars du Middle West. Il ne va pas avoir de mal à se faufiler dans ce sanctuaire protégé. Pour la première fois, on va l'accepter sans lui demander des comptes, le considérer sans le juger. Le camp est l'endroit où il trafique des cartouches de cigarettes, des bouteilles de bourbon et des chemisettes pour les revendre à prix d'or dans les hôtels de Châteauroux. Avec les Américains, l'argent coule à flot. Il en donne à sa mère et claque tout le reste. Mais la Martinerie n'est pas seulement un terrain de magouilles et de marché noir. C'est l'endroit où il apprend à parler anglais. Où il voit Elvis Presley, en chair et en os, venu donner un concert où il découvre les films américains. C'est à peine croyable. Mais dans moins de 10 ans, le gamin perdu de Châteauroux qui mange du pop-corn en regardant Yul Brynner dans Les 7 mercenaires tiendra la vedette dans Les valseuses.
Cet extrait vous a plu ? Alors retrouvez cette émission chaque samedi à 14h sur RTL ou abonnez-vous au podcast de Confidentiel.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec les victoires de la musique.
Et oui, on en parlait, c'était vendredi soir sur France 2 en direct. Et qui dit direct, dit forcément aléa du direct, puisque pendant 2 minutes, il y a eu un gros bug technique. Hein. Impossible de lancer la chanson suivante, mais Daphné Burki, qui présentait la cérémonie, a géré la situation, mais alors en toute décontraction.
Nous avons une petite panne, c'est des choses qui arrivent quelquefois. Je pense que c'est les Kids United qui ont tout saboté. C'est normal qu'il y ait des petites pannes, ça s'appelle le direct, vous connaissez les joies, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut lancer le live d'Eddie de Préto? Bon, il n'y a rien qui fonctionne pour le moment. Bon, ce n'est pas très grave, ça va revenir. Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que vous commencez à avoir faim ou soif dans cette salle? Alors, je vais prendre les commandes. J'ai préparé des sandwichs. Qui veut quoi? Il suffit de lever la main, oui? Bon alors je note des sandwichs, qui veut un jambon beurre? C'est les joies du direct, on mange des sandwichs et il y a des pannes de courant. Mais on va quand même remettre la sauce puisque Eddie de Préto est vraiment prêt. Et c'est vraiment la fête de trop.
Vous avez eu la version courte, ça a duré 2 minutes. Ah, voilà, il faut gérer ça quand même, un truc comme ça pendant 2 minutes où il ne se passe plus rien. Là, pour le coup, il faut meubler. Ça aurait été la victoire du meilleur comblage. Si elle existait, on aurait pu la remettre à Daphné Burki. Ça a bien fonctionné d'ailleurs pour les victoires cette année.
Ça a très bien marché.
Ouais, 600 000 téléspectateurs de plus que l'an dernier. Ce sont 2 800 000 personnes qui ont suivi la cérémonie. Des victoires qui avaient débuté par un très joli hommage d'ailleurs à Johnny, avec Slimane qui était avec nous il y a quelques minutes, qui a ouvert la cérémonie. Mais Johnny, il en a été question aussi samedi soir dans ce documentaire événement sur Claude François, dont on a parlé ici même vendredi, et qui était diffusé samedi soir sur Paris Première. Oui, parce que Clo-Clo adorait Johnny.
Claude François percevra toujours Johnny Hallyday comme un véritable rival jusqu'à la fin de sa vie.
Il était jaloux de Johnny. Je me souviens quand il était encore sur la côte, Johnny qui voulait absolument le voir. Claude n'a jamais voulu. Et Johnny l'a attendu toute la journée dans le hall. Il n'a pas voulu le voir.
Alors, cette jalousie, elle est allée très très loin. Vous vous souvenez du fameux faux malaise de Claude François à Marseille en 1970? Il s'effondre sur scène, on le voit ensuite à l'agonie sur sa civière, et tout ceci était en fait un coup monté, un stratagème dont même Jean-Pierre Foucault, qui présentait le concert ce soir-là, n'était pas du tout au courant.
30 ans plus tard, nous sommes en voiture entre Paris et Bruxelles, avec Paul Lederman. Paul me dit, on les a bien eus, hein. Excuse-moi, tu me parles de quoi? Mais quand il est tombé, quand t'allais dire que c'est fini, que c'était un coup monté, Il dit, voilà, c'est simple. Il était numéro 2, Johnny était premier. Il fallait qu'on trouve quelque chose de très très fort pour qu'il repasse en tête.
Alors, je vous avais prévenu, hein, ce documentaire était dans l'ensemble à la gloire de Claude François.
Ah, hein. Oui, c'est ça. Ouais. J'aimerais qu'avec 40 ans après notre mort, on dise des choses.
Mais bah, attendez, c'est pas terminé, Stéphane.
C'est pour ça qu'il est mort jeune.
Oui, c'était pour refermer le dossier.
En fait, c'est un coup marketing, sa mort.
C'est un coup marketing.
Oui, ce très bel hommage nous a permis de découvrir un homme, mais alors vraiment délicieux.
Les colères de Claude François, ses changements d'humeur, tous ceux qui le côtoient en font l'expérience.
Il était épouvantable, c'est le mot est simple. Il arrivait pendant mes chansons à critiquer les danseuses ou les musiciens qui étaient derrière lui, c'est-à-dire qu'il avait deux yeux devant et deux yeux derrière.
Il voulait tellement que ce soit parfait qu'il mettait une ambiance, tout le monde était stressé.
Ah bah ça, il y a toujours eu de l'électricité dans l'air avec lui, hein. Il n'y avait pas que le téléphone qui pleurait. Un chic type avec ses équipes et surtout avec le compositeur de ce qui allait devenir son plus grand tube, comme d'habitude.
Claude François refuse la chanson. L'été suivant, Claude invite Jacques Revaux au Moulin de Dannemois. Le compositeur lui propose alors une seconde fois d'écouter le titre.
On déjeune et après il me fait « Bon allez, tiens, viens me jouer ta merde ».
Oui, Claude François, un chic type. Et en amour aussi. C'est ce documentaire qui nous a révélé l'existence de sa fille cachée qu'il a eue avec une gamine de 15 ans. Mais on y a aussi appris que Clo-Clo était d'une...
14,
13 ans qu'on l'a rencontré. Et 15 ans, je crois, au moment de la grossesse. On y a aussi appris que Clo-Clo était d'une fidélité exemplaire quand il était en couple avec France Gall.
À l'été 1967, il s'amourache à Nice d'une jolie chanteuse au corps sublime et expressif, Annie Philippe.
Tous les soirs de la tournée, on couchait ensemble tous les soirs. Et il faut dire qu'à l'époque, il était avec France Gall. Donc c'est un merdier total.
Oui, on peut le dire, c'était un bien bel hommage. Mais au-delà de ça, c'est un très bon documentaire que vous pourrez voir d'ailleurs sur Paris Première le 2 mars prochain, puisqu'il repassera sur la chaîne le 2 mars.
Bon, rions un peu maintenant, Eric.
Oui, volontiers. Rions un peu.
Oui,
j'ai une bonne solution pour ça. Voici la minute Christine Angot. Samedi soir, Christine Angot s'est fait un nouveau copain dans N'est pas couché. Oui, vous avez vu ça, Laurent Baffy? Ben oui, Angot, les blagues de Lolo, elle trouve pas ça rigolo.
Mais enfin, c'est quand même un principe télévisuel où on invite des gens pour les blesser avec l'humour.
Mais non, alors, je suis pas du tout d'accord avec vous.
C'est par l'humiliation.
Pas du tout.
Et quand on leur demande de rire contre eux-mêmes, la personne qui rit s'humilie encore plus.
Je pense que pour vous, rire, c'est déchoir. C'est l'image que vous renvoyez. Mais acceptez l'image que vous pouvez renvoyer, Christine.
Non, que je renvoie à vous.
Pas seulement. Parce qu'on s'appelle avec des potes, on est tous d'accord.
Non, attendez, moi je comprends sa réaction. C'est vrai qu'elle et Yann Moix ne leur viendraient jamais à l'idée d'humilier leurs invités, vous voyez. Bah, c'est non, pas du tout, du tout leur genre. Alors visiblement, l'échange a été. Il n'y a même pas d'humour. L'échange a été coupé, ce qu'explique Laurent Baffy sur Twitter. Il dit que l'échange a été bien plus houleux que cela et bien plus long, mais qu'il aura été coupé au montage. Voilà, c'est Laurent Baffy qui l'a signalé sur Twitter. Pour l'instant, pas de réaction de la production.
Et on termine avec une très bonne astuce.
Oui, on vous la doit, Clémentine Salarié. Comment éviter qu'un inconnu ne vous aborde dans la rue? Eh bien, vous avez un truc, d'après l'un de vos amis interrogé dans C'est à vous.
Pendant une fête de fin de tournage, Clémentine m'a donné un truc. Quand elle voit qu'il y a quelqu'un qui va l'aborder, elle dit « et il avait un sexe énorme ».
C'est vrai, ça,
Non, c'est pas du tout pour pas aborder. Il a écorché. Je dis ça quelquefois quand on est dans un supermarché avec une copine. Je dis « il avait un sexe énorme » pour les faire rigoler. En fait.
C'est génial.
Non, bon, oui, je vous le conseille, c'est très marrant à faire, les filles.
Quand
vous faites des courses avec quelqu'un qui vous reconnaît, vous dites « il a un sexe énorme enfin, !» complètement désemparé.
C'était donc faux.
Je dis parce que ça se dit pas, parce que c'est marrant.
Bah oui.
Parce que ça crée dans un supermarché, tu dis ça.
Non, mais c'est faux.
C'est des conneries.
C'est faux. Ambiance. Vous imaginez la déception de toutes celles qui vous ont entendu. Quand vous faisiez vos courses. Ah, ce qui paraît que Clémentine Salarié connaît quelqu'un qui a un sexe énorme. Bah non.
Ah c'est oui, pas vrai. Oh là là. Oh non, c'est une blague.
Ça perdit maintenant. Merci beaucoup, Éric Dussard.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Clémentine Salarié. Je voulais vous faire une interview à la folie, passionnément, pas du tout, mais je me suis dit, mais c'est quand même l'occasion de parler de votre livre aussi.
C'est très gentil.
Parce que c'est vrai que c'est un conte, au fond. C'est comme un conte.
Ah oui, vous trouvez
c'est... Non, pas vous, parce que c'est très positif. Au fond.
Ah oui, c'est très
c'est
positif.
C'est parmi les fous qu'on rencontre. Ça pourrait être vrai.
Ça pourrait être vrai.
Ça pourrait être vrai. C'est pas mal.
En tout cas, c'était vrai pour moi, parce que les personnes qui ont inspiré ce livre, je les ai rencontrées, dont d'ailleurs ceux de Vestiaire, mes copains de Vestiaire, la série sur France 2, le programme court que je vous conseille fortement. Et d'ailleurs, ils ont gagné à Luchon le prix du public. Donc je dis, il faut regarder Vestiaire. C'est absolument génial. C'est une leçon d'humour, de vie, de tout, d'autodérision, ce qui est quand même très important. qui manque beaucoup parfois, l'autodérision, oui. Ne pas se prendre au sérieux. Bon bref. Et donc c'est voilà, c'est un hymne à la différence.
À la différence.
Voilà.
Et c'est une fille qui est mal dans sa peau. Elle est animatrice télé. Elle n'est pas très bien dans sa peau.
Elle est comédienne et elle ne peut pas réaliser ses propres projets artistiques.
Donc elle est à la télé.
Parce qu'elle est prisonnière d'un système. Donc elle fait de la télé, mais vraiment comme ça. Et puis un jour, elle est complètement dépressive, déprimée. Elle se fait sauver par un quelqu'un qui est très très différent, qui m'a été inspiré par Luc Rodriguez. Si vous allez sur sur internet regarder Luc Rodriguez, vous verrez qu'il est très différent, c'est un acteur différent.
Il y a de quoi être déprimé vu son émission de télé, qui est quand même le truc le plus crasse qu'on puisse imaginer, son émission de télé.
Oui, voilà.
La
télé-réalité,
c'était
pour en mettre un petit coup.
Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous avez une carrière parallèle dans l'écriture.
Et enfin, une carrière, c'est un grand mot. Hein.
Ça fait quoi, cinquième ou sixième livre,
quand même. Oui, mais parce que j'ai besoin d'écrire, mais j'écris, en fait, j'écris ça, et j'écris des romans, et puis j'aime écrire des scénarios, et puis je suis en train de travailler sur l'adaptation de film, de ça, de À la folie, et puis on a un projet aussi, on est en tournée de Darius en ce moment, au théâtre, et on a un projet aussi d'adapter Darius avec Jean-Baptiste Patricot et Salim Mikhaïlef au cinéma.
Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que c'est une ruche industrieuse dans votre cerveau.
Voilà, complètement. C'est la grotte à l'atelier de créativité.
Oui. Mais c'est
chez
bien.
Nous, hein.
Ça c'est une effervescence permanente.
Oui.
Alors, il y a sans doute des gens qui se disent elle en fait trop, on ne sait plus où elle est, etc.
Tant pis. Trop, c'est quoi par rapport à quoi?
Par rapport à ceux qui ne font rien.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est un besoin, c'est une drogue. Parce qu'aujourd'hui, quand on est comédien, artiste, je ne sais pas, qu'on essaie d'être artiste, c'est chouette d'essayer d'avancer en essayant de fabriquer des choses chouettes. Le plus chouette qu'elle puisse être. Enfin, voilà. Moi, c'est mon idéal. Vous voyez, je suis très idéaliste.
Oui, c'est bien.
Nous avons aussi
quelqu'un de très idéaliste. Ah. Il veut absolument faire gagner à quelqu'un ce matin un séjour à Orsières-Merlette. C'est Patrice Carmouze.
C'est pratique.
Et son quiz musical. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, Patrice, nous jouons avec les clémentines et les avocats. Si j'ai bien compris, pour faire gagner un séjour à Orsières-Merlette. Au club Bellambra le Roc Blanc. Et pour cela, nous jouons.
Clémentine pour Marie-Geneviève.
Voilà, et moi pour Marie, tout simplement.
Donc c'est chacun son tour. On l'a dit sur quoi. Et il faut deviner qui chante. Et on commence par vous, Clémentine. Ça, c'est facile.
Je voyais briller les yeux.
Tu m'entends? Non. Si je m'entends,
de Clémentine.
De Clémentine.
Vous ne reconnaissez pas bien sa voix tout de suite, là.
Non, reconnaissez pas, parce que c'est une ancienne chanson. Parce que c'est une très jolie chanson qui s'appelait Clémentine.
C'est bon. Hein. VHS. C'est un enregistrement VHS.
1-0.
Cadeau de Géraud.
Ouais. Vous connaissez qu'elle.
Je ne connais que lui.
Pomme C.
Un partout. Ah oui, Pomme C.
Pomme C, ouais.
Je réfléchissais.
Ah ouais.
Donc vous nous aidez si on peut.
Oui, absolument. On est Clémentine.
Oui.
Ah bah oui.
Ah oui, oui, Charlotte Gainsbourg.
Charlotte Gainsbourg, bravo.
Et Serge.
Et Serge.
Ça, c'est un must.
Oui, Lemon.
C'était quoi la musique classique
Oui,
Chopin.
C'est Chopin. 2-1. Stéphane.
Après, il dit ça, c'est qui sait pas.
C'est Beatles. Oui, oui. C'est assez facile, ça.
Strawberry Fields Forever. Clémentine, alors.
Salade de fruits, joli, joli.
C'est chouette. C'est beau, toutes ces chansons.
Tu baises à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Ça fait du bien d'entendre
ça. Ah, ça oui.
La poésie.
C'est joli, c'est mignon comme tout.
Il n'y a que dans le bureau de Patrice qu'on a ça.
Bon, Stéphane, alors, ça c'est peut-être plus. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, peut-être pas, au fond.
C'est pas un roi, c'est un.
King.
Non, c'est un.
Oui. Non,
un tout.
Oui. Ah, c'est Prince.
J'ai dit quoi
Prince.
Prince.
Raspberry Beret. C'est le chapeau d'étudiant aux États-Unis. Voilà. Mais enfin, Raspberry, c'est les murs, non je crois.
C'est groseille.
Les groseilles, oui. Le béret groseille,
c'est génial.
Égalité 3 par 6.
Alors, ça, oui, c'était très connu, mais est-ce que vous vous souvenez qui chantait ça?
Ah oui. Je sais.
Attends.
Full Garden,
c'est ça?
Oui.
Bravo.
Garden,
Lemon Tree.
Lemon Tree.
On est ensemble.
Oui.
Clémentine est en panique.
Full Garden, vous avez très bonne réponse de Clémentine.
Voilà.
De l'équipe de Clémentine. Stéphane.
Je suis l'homme à tête de chou.
Ah bah, l'homme à tête de chou, c'est Serge Gainsbourg. Oui.
Ça fait du bien d'entendre lui aussi.
C'est lui, ça va.
4-4.
4-4
comme les voitures.
Non, tout à fait. Non, bah, ça, on l'a entendu. Hein.
Je vous signale, comme les gâteaux.
4-4 comme les voitures, il a dit.
Alors, Clémentine.
Oui. Une forme.
Ah, bah oui.
Francky Vincent, fruit de la passion.
C'est une partie de son anatomie, je crois, c'est ça qu'il désigne.
Pardon ?
C'est une partie de son anatomie.
Oui, le fruit de la passion, voilà.
Bah oui. Ah, bah, c'est un amoureux de la métaphore.
Ça drague un peu, quoi. Voilà.
C'était avant son titre du cul politique. Qui est sorti quelques mois plus tard. C'est vrai, en plus.
Alors, Stéphane.
Il y a ce titre, c'est comme ça.
Catherine.
Ah, j'adore.
Ah, c'est
du casque, excellent.
Ouais. Ah oui, il est un peu partout. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un départage ou on a un peu de temps ?
On a un peu de temps.
Départage. Alors attention, là, il faut être très, très...
Attendez, ouais, parce que c'est important.
Très concentré, c'est comme Orsière Merlette. Alors c'est le premier entre vous, Clémentine, et Stéphane, qui donnait l'interprète.
D'accord.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
Non, c'est pas facile à trouver.
Ah non,
c'est comme le prénom de quelqu'un qui est d'une émission sur cette chaîne. Mais c'est Sidonie. Mais c'était pas facile. Ah, alors on va en faire un autre.
Vous avez fait une rechute là, Patrice.
Un autre. Mais c'est joli, manger des tomates. Oui, attention, on se concentre encore. Un autre.
Des cornichons.
Ferrer, Nino Ferrer.
Quand on aime quelqu'un, on a plus de mal à trouver son prénom.
C'est Stéphane, oui.
Non,
oui. Bah oui.
Les cornichons de Nino Ferrer.
Oh, pardon.
C'est donc Marie.
Marie qui part, voilà.
Mais Marie-Geneviève peut se réinscrire. Absolument. Eh bien, en tout cas, merci Clémentine. C'est l'arrivée d'avoir été avec nous. Je rappelle donc, pour ceux qui veulent vous lire, le dernier roman, c'est À la folie, publié au Cherche Midi, qui sera bientôt adopté. Sinon, mercredi, on peut commencer à suivre la deuxième saison pour vous voir. Oui. Formidable, en avocate, en Paul Leibovitz contre Irène Leibovitz, oui. La rivale.
Oui.
Et c'est sur France 2 à 21h.
Merci beaucoup.
Demain, nous serons avec, ils sont au bord de la crise de nerfs, Mathieu Madénian et Thomas VDB. Pour l'heure, RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.